Bonjour à tous et merci d'écouter RFI. Il est 11h en temps universel, 13h ici à Paris et à Rome. Les cloches de la basilique Saint-Pierre sonnant pour le pape François, décédé ce matin à 88 ans. On le savait souffrant, très affaibli, mais il avait tenu à faire une apparition hier au balcon de la célèbre basilique à l'occasion de la messe de Pâques. Édition spéciale durant toute la durée d'RFI Midi jusqu'à 13h30, temps universel, avec nos correspondants à Rome, bien sûr, à Jérusalem, en Pologne, en Argentine, pays d'origine du souverain pontife. Nous serons aussi en ligne avec de nombreux invités. Le pape dont la disparition est aussi, bien sûr, à la une de votre journal. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour à tous. Oui, en ce lundi de Pâques, la nouvelle est tombée officiellement un peu avant 9h. Heure de Rome, le pape François est mort. Le communiqué du Vatican précise que ce matin, à 7h35, l'évêque de Rome, François, est revenu à la maison du Père. François avait 88 ans, son pontificat aura duré 12 ans depuis 2013, quand il avait succédé à Benoît XVI, qui lui avait démissionné. Le souverain pontife disparaît un mois après sa sortie de l'hôpital. Il était resté hospitalisé pendant 38 jours pour une grave pneumonie. Les dernières images en public resteront celles de son apparition hier devant la foule rassemblée pour fêter Pâques, place Saint-Pierre de Rome. Actuellement, les fidèles qui ont appris la nouvelle sont amassés sur cette même place où vous vous trouvez, Camille Dalmas. Bien sûr, beaucoup de tristesse, de gravité.
Oui, Roberta, une Italienne de 54 ans, me confiait le sentiment de proximité vis-à-vis de ce pape. Elle m'a dit c'est le pape du peuple. C'est ce pape-là, elle avait noté le fait qu'il avait tenu, un de ses derniers actes aura été de sa fidèle.
Des difficultés de liaison.
Un geste très significatif. Oui, allô ?
Allez-y, Camille.
C'était le... Oui, Roberta, une Italienne de 54 ans, me confiait qu'elle le voyait comme le pape du peuple. Elle avait souligné le fait qu'il avait tenu, un de ses derniers actes avait été de saluer les fidèles présents. Voilà. Andras, un Hongrois de 34 ans, qui a vraiment été le pape de... Voilà, on sent vraiment cette proximité du peuple catholique vis-à-vis de son peuple, de son pape. C'était quelque chose de très fort et très partagé aujourd'hui sur la place Saint-Pierre.
Et maintenant, Camille Dalmas, que va-t-il se passer dans les prochains jours?
Alors, dans les prochaines heures, parce qu'on sait que dès ce soir à 20h, il y aura le rite de la constatation de la mort, qui est la première étape des funérailles. Donc les funérailles, on n'a pas encore de date précise, mais elles devraient être entre 4 et 6 jours. Elles devraient être annoncées par le camerlingue, Kevin Joseph Farrell, qui sera l'homme stratégique à suivre dans les prochaines heures.
Alors parmi toutes les réactions qui ont suivi, merci Camille Dalmas, l'annonce du Vatican, celle d'Emmanuel Macron, le président français rend hommage à un homme qui, je cite, a toujours été aux côtés des plus vulnérables et des plus fragiles. Le Premier ministre espagnol salue lui aussi l'engagement envers les plus vulnérables. La présidente de la Commission européenne retient l'humilité de François et son amour si pur pour les plus démunis. Le président israélien s'incline devant un homme de foi profonde et de compassion sans fin. Pour le président égyptien, il était une voix de paix, d'amour et de compassion. Puis autre pays musulman, l'Iran, qui entretient de bonnes relations avec le Vatican. L'Iran a présenté ses condoléances. L'Afrique est un continent que le pape François évoquait régulièrement et pour lequel il prêtait une attention particulière. Il avait fait en 2023 un ultime déplacement sur le continent au Soudan du Sud, mais aussi en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, où vous vous trouvez, Paulina Zidi. Comment a-t-on réagi à Kinshasa ?
Ben ici, c'est un lundi de Pâques un peu particulier puisqu'il n'est pas férié. Néanmoins, des fidèles arrivent petit à petit à la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa où je me trouve pour avoir la confirmation de cette nouvelle qu'ils ont lue ou entendue ce matin. Le curé de cette paroisse me confiait qu'ils avaient annulé tous les événements festifs que les temps de prière seraient désormais tournés vers le pape François. Vous le disiez, il était venu ici en janvier 2023 et forcément tous les Congolais interrogés ce matin rappellent ce moment qu'ils qualifient souvent d'historique. Lors de ses déplacements, il était resté à Kinshasa et avec un temps fort, cette grande messe à l'aéroport de Ndolo, au centre-ville, on dit que près d'un million de personnes étaient présentes. Il avait aussi rencontré des victimes du conflit à l'est du pays, zone où en raison de la situation sécuritaire, il n'avait pas pu se rendre. Une guerre qu'il n'a pourtant jamais oubliée dans ses prises de parole. Il appelait régulièrement au retour de la paix, faisait part de son inquiétude, de sa douleur concernant la situation dans cette partie du pays. Et ce sont ces rappels réguliers que retiennent les catholiques congolais, eux qui ont souvent l'impression que ce conflit passe au second plan sur la scène internationale.
Paulina Zidi en direct de Kinshasa. François était de nationalité argentine et il restera dans l'histoire comme le premier pape latino-américain. Pour Pepe Di Paola, curé d'un quartier pauvre de Buenos Aires, l'héritage du pape François est très important. Il aura su, selon lui, avoir des idées innovantes et les mettre en action. On écoute le père Pepe Di Paola au micro de Mélissa Barra.
Certaines de ces idées sont traditionnelles dans l'Église, mais elles avaient été mises de côté et le pape les a remises sur la table. Des idées comme l'évangélisation, l'engagement de l'Église pour les pauvres, l'unité des chrétiens, la protection de l'environnement. Ce sont des choses que Bergoglio, ou le pape François, a remis sur la table.
Témoignage du prêtre d'un quartier pauvre de Buenos Aires. Hier, François, toujours très affaibli, s'était offert un bain de foule surprise place Saint-Pierre à l'occasion de la célébration de Pâques. Et dans sa bénédiction, qu'avait lu pour lui un collaborateur, eh bien, il avait dénoncé, je cite, la situation humanitaire dramatique et ignoble à Gaza. On écoute maintenant une autre prise de position sur les conflits du moment. C'est un appel à la paix.
Ma pensée va d'abord aux victimes des conflits nombreux qui se déroulent dans le monde, à commencer par celui en Israël et en Palestine, et celui en Ukraine. Que le Christ ressuscité ouvre un chemin de paix pour les populations meurtries de toutes ces régions. Tout en appelant au respect des principes du droit international, j'appelle de mes voeux à un échange général de tous les prisonniers entre la Russie et l'Ukraine, tous pour tous. Par ailleurs, j'appelle une nouvelle fois à ce que l'accès des aides humanitaires à Gaza soit garanti, en exhortant de nouveau à une libération rapide des otages enlevés le 7 octobre, ainsi qu'à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza.
Le pape François lors des célébrations de Pâques l'an dernier. Depuis Mayotte, où il est en visite officielle, Emmanuel Macron a présenté ses condoléances aux catholiques. Raphaël Delvolvé, bonjour. La disparition du pape a aussi fait réagir bien sûr l'ensemble de la classe politique française, à commencer, Raphaël, par le Premier ministre qui vient de s'exprimer.
Oui, François Bayrou salue la volonté de réformer sans peur du pape François qui a déclenché, je cite, un basculement au sein de l'Église. Le Premier ministre français, précisons-le, est lui-même catholique pratiquant. D'autres hommages à gauche notamment, où les positions de François pour les migrants ou le climat plaisent, le patron des socialistes Olivier Faure cite cette phrase du pape François prononcé à Marseille en 2023, la Méditerranée ne peut devenir un cimetière. La chef tout juste réélue des écologistes Marine Tondelier souligne, elle, la bataille culturelle engagée par le pape sur les sujets environnementaux. À droite, on s'épanche moins en détail. Marine Le Pen et Jordan Bardella du Rassemblement National font sobre en adressant une simple pensée aux catholiques. L'actuel ministre de l'Intérieur et candidat à la présidence du Parti des Républicains, Bruno Retailleau, lui résume un pontificat marqué par le souci des pauvres. L'ancien président Nicolas Sarkozy rédige un long post sur X dans lequel il salue la volonté du souverain pontife de tourner l'Église parfois très loin d'un vieil Occident chrétien. Une révolution qui fait dire à Éric Zemmour, à l'extrême droite, que le pontificat écoulé a pu être une épreuve pour certains catholiques.
Raphaël Delvolvé du service politique à suivre sur la mort du pape François. Une édition spéciale autour d'Anne Cantner, de retour dans un instant dans le reste de l'actualité. En bref, la Russie reprend ses frappes sur l'Ukraine au terme de la très fragile trêve de Pâques décrétée par Vladimir Poutine. Une trêve que les deux camps se sont mutuellement accusés d'avoir violée. Parallèlement, le président américain Donald Trump déclare qu'il espère un accord dans la semaine entre les deux pays. Enfin, Emmanuel Macron est à Mayotte, département français de l'océan Indien, encore très marqué par le passage dévastateur du cyclone Chido, c'était en décembre dernier. Le président doit faire le point sur la reconstruction et présenter un plan de refondation pour ce département le plus pauvre de France. Mayotte est la première étape d'une tournée de 5 jours dans l'océan Indien. Elle le conduira aussi à La Réunion, autre département français, ainsi qu'à Madagascar et à Maurice.
Merci Gilles Moreau. À tout à l'heure, il est 13h10 ici à Paris. Édition spéciale après la disparition du pape François. Son décès a pris tout le monde de court. Malgré la maladie, malgré l'âge, il était apparu hier au balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome pour souhaiter de joyeuses Pâques aux fidèles catholiques. Nous sommes en ligne pour parler du souverain pontife avec l'historien Charles Mercier. Bonjour.
Bonjour.
Professeur des universités en histoire contemporaine à l'université de Bordeaux, vous êtes l'auteur du livre « L'Église, les jeunes et la mondialisation, une histoire des JMJ ». On va prendre d'abord la direction de Rome, du Vatican, en direct avec nous notre correspondant Éric Sénanc. Vous vous trouvez sur la place Saint-Pierre où se sont rassemblés là ces dernières heures de nombreux fidèles.
Oui, absolument, les fidèles et les touristes qui continuent de se masser sur cette place alors que le jubilé continue. On a entendu tout à l'heure le glas de la basilique Saint-Pierre sonner après la joie de Pâques hier. C'est les cloches donc qui ont sonné pour rendre hommage au pape défunt juste après les 12 coups de midi. Les 6 cloches monumentales de la plus grande basilique du monde ont donc résonné, ont sonné à toute volée pendant quelques minutes. Cette mort du pape est un événement mondial, mais bien sûr laisse un grand vide ici à Rome, dont François, je vous rappel, était l'évêque, le président de la communauté juive de Rome, a rendu hommage en disant qu'il avait une force extraordinaire jusqu'au bout. Le pape François, lui, savait parler à tous, c'était un homme extraordinaire, a commenté aussi pour sa part le maire de la capitale, Roberto Gualtieri, qui a très souvent côtoyé le pape François lors de cérémonies publiques. Sa mort est une profonde douleur. Ici, au Vatican et à Rome, la vacance du siège apostolique se prépare. Une messe aura lieu ce soir dans la basilique majeure Saint-Jean de Latran, qui est la cathédrale de Rome, et la mise en bière du souverain pontife aura lieu à 20h, a annoncé tout à l'heure le bureau des cérémonies liturgiques.
Et que vous disent les touristes, les fidèles que vous avez croisés sur cette place Saint-Pierre ?
Eh bien, écoutez, ils sont évidemment un peu sous le choc. C'est un sentiment partagé. Ils sont à la fois heureux pour la plupart de l'avoir vu une dernière fois hier lors de la messe de Pâques et la bénédiction Urbi et Orbi, puisque beaucoup que j'ai pu croiser ce matin place Saint-Pierre étaient présents pour la fête de Pâques hier. Le choc, la stupéfaction évidemment, puisque évidemment on connaissait l'état très très diminué du pape François avec cette double pneumonie, ses apparitions beaucoup plus brèves ces derniers temps, mais le dernier bain de foule, ce tour en pape immobile sur la place Saint-Pierre hier, avait laissé pour certains l'espoir que le pape puisse rester aux affaires, si l'on peut dire. Il est revenu au milieu de son peuple, c'est vraiment notre pasteur, me disait, je me souviens hier encore, une fidèle que j'avais croisée sur la place.
Et est-ce qu'ils vous ont dit, est-ce qu'ils vous ont parlé de l'image qu'ils allaient garder de ce souverain pontife ?
Oui, alors certains commencent évidemment à parler de ce que le pape François, ce pape argentin, représentait pour eux. Tout à l'heure, un Italien que j'ai croisé sur la place me disait que cela représentait l'Église réformatrice, que ce pape avait incarné une Église beaucoup plus ouverte sur le monde, contrairement à ce qu'elle avait été par le passé, c'est ce qu'il me disait. Un autre pèlerin péruvien, lui, était très ému, évidemment, il m'a dit, moi, pour nous, c'est un pape latino que je viens de perdre. Il habite à Madrid, mais il est d'origine du Pérou. Et évidemment, la mort de ce pape latino, ce premier pape latino de l'histoire, l'a beaucoup marqué.
Et on aura l'occasion tout à l'heure d'être en direct avec notre correspondant en Argentine. Merci Éric Sénanc. Charles Mercier, vous êtes historien. On l'a dit, le pape François était apparu hier au balcon de la basilique Saint-Pierre. Ça avait beaucoup marqué les fidèles. Il est vraiment resté mobilisé jusqu'au bout. On avait évoqué une renonciation lorsqu'il avait été hospitalisé il y a plusieurs semaines. Ça compte ça pour les fidèles ?
Oui, c'est vrai qu'il avait, il a réussi à aller jusqu'au bout de son pontificat, à avoir un dernier bain de foule la veille de son décès. Et ça compte effectivement, c'est plus marquant pour les fidèles qu'un pape meure en exercice qu'après sa renonciation, comme c'était le cas de Benoît XVI. L'émotion n'était pas tout à fait la même, même si elle était forte. Mais le fait de mourir en exercice, ça rappelle la fin du pontificat de Jean-Paul II, qui elle-même avait été très chargée du point de vue émotionnel pour les catholiques.
Alors je vous propose justement d'écouter une fidèle rencontrée par notre reporter sur le parvis de Notre-Dame à Paris tout à l'heure, elle s'appelle Flore.
Je trouve ça bon en fait qu'il soit parti aujourd'hui, le jour de Pâques. Quand je l'ai appris, j'ai tout de suite parlé de ça à ma mère, à mon père, et ma mère a tout de suite dit ouais, il a attendu aujourd'hui, c'est quand même beau que ce soit aujourd'hui quoi. Moi, de manière générale, j'ai plutôt l'image d'un pape qui a été assez réformiste quoi. Il a essayé un peu de faire trembler les traditions un peu durant son pontificat, et je trouve ça beau aussi parce que faut aussi pouvoir attirer d'autres jeunes, parce que c'est la foi, ça se perd. Moi, je pense que ça a pu permettre à des jeunes de s'intéresser davantage et de casser un peu les normes et le côté trop rigide de la religion catholique.
Le prochain, comment il doit être? Est-ce que vous avez une préférence?
Je pense que quoi qu'il arrive, le pape aujourd'hui a besoin de rester dans son temps. Il faut vraiment garder en tête que c'est la Bible et que c'est Dieu qui suit. Enfin voilà.
Voilà, Flore, une fidèle rencontrée tout à l'heure sur le parvis de Notre-Dame de Paris, où s'en sont réunies aussi de très nombreuses personnes après l'annonce du décès du pape ce matin. Elle évoquait cette figure particulière du souverain pontife, Charles Mercier. C'est vrai que depuis le début, il s'était montré très proche des fidèles, des gens. Ça, on avait pu le voir dès sa première prise de parole au balcon. Je vous propose de l'écouter.
Nous allons nous revoir très bientôt. Demain, je vais prier auprès de la Sainte Vierge pour qu'elle garde Rome, pour qu'elle la garde de tout mal. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et beaucoup de repos. Merci à vous.
Bonne soirée, bonne nuit, c'est assez particulier comme manière de saluer la foule. Ça n'arrivait pas habituellement avec les souverains pontifes, Charles Mercier.
Oui, tout à fait. Et puis, il avait aussi souhaité bon appétit. C'était un pape qui, effectivement, a cassé une partie des codes de la papauté. Il avait aussi demandé, lors de cette première apparition, à ce que la foule prie sur lui. Et donc, au lieu que ce soit lui qui bénisse la foule, eh bien, il demandait à la foule de le bénir. Et durant son pontificat, il n'a pas arrêté de demander à ce qu'on prie pour lui, et d'une certaine manière c'était une partie du projet de son pontificat, c'est-à-dire de redonner en fait aux simples baptisés voix au chapitre et construire une église moins hiérarchique, moins descendante, qui soit davantage inductive, qui parte davantage du terrain pour faire participer à la conversation davantage les fidèles et leur donner davantage la parole qu'ils ne l'avaient précédemment.
Et puis, il avait tenu à l'incarner lui-même. Hein. Par exemple, il ne vivait pas dans les appartements officiels qui sont habituellement réservés aux souverains pontifes.
Oui, tout à fait. Ses premières sorties à Rome aussi, où il était allé lui-même faire des courses, payer la note de l'hôtel où il avait résidé pendant le conclave. Il a, d'une certaine manière, cherché à normaliser la papauté en abandonnant aussi les chaussures réservées distinctives de la papauté pour des chaussures orthopédiques noires tout à fait classiques. Donc, de ce point de vue-là, il a, même à la fin, hein, il est apparu ces derniers jours en poncho, sans calotte, au sein de la basilique. Il a cherché à désacraliser la figure de la papauté, ce qui n'empêchait pas de lui donner aussi une forme de charisme, cette routinisation qui s'exprime aussi par le fait qu'il utilise des véhicules populaires, des Fiat. Des Fiat classiques plutôt que des limousines n'empêchait pas que son rayonnement et que son charisme soient très importants. Alors je dirais juste que cette désacralisation de la papauté, elle n'est pas tout à fait inédite, puisque ses prédécesseurs avaient cherché à rapprocher la figure du pape des simples fidèles en abandonnant par exemple certains symboles comme la chaise à porteurs qui était utilisée jusqu'à Pie XII. Mais là il a été un cran plus loin dans son rapprochement de la figure du pape avec les simples baptisés.
Et cette volonté de se rapprocher du pape, ça passait aussi par le foot. François, par exemple, n'a jamais caché son amour du ballon rond. Il l'a même souvent mis en avant, Gaëtan Plenet.
Oui, ça a commencé très tôt à Barro Flores, un quartier de Buenos Aires. C'est là que se trouve le stade de San Lorenzo, l'un des plus grands clubs argentins. Et enfant, Jordi Bergoglio va voir les matchs des Azulgranas, les Bleus et Grana, avec son père. Alors plus tard, celui qui n'était pas encore pape célébrera lui-même une messe chaque 1er avril pour l'anniversaire de la fondation du club. Ça se passait directement dans la chapelle du siège omnisport de San Lorenzo. maillots, dont il conservera d'ailleurs à nos, au Vatican, plusieurs des maillots offerts par des visiteurs argentins.
Un maillot qu'il a lui-même porté.
Alors en amateur, hein, difficile de trouver plus honnête sur ses compétences. Dans sa deuxième autobiographie sortie en début d'année, il avouait n'avoir rien d'un champion. À Buenos Aires, on appelait un type de mon genre una patadura, ce qui veut dire que j'avais deux pieds gauche. Alors il sera surtout gardien. C'est un beau poste, il vous habitue à regarder la réalité en face, à affronter les problèmes. On ne sait pas toujours très bien d'où ce ballon est parti, mais on doit quand même essayer de l'attraper, comme dans la vie, disait le pape François, pour qui le football avec incontestablement une dimension universelle et égalitaire aussi, preuve de plus de sa volonté d'être le pape du peuple.
Et d'ailleurs, le monde du foot lui rend hommage puisque la Ligue italienne annonce que les quatre derniers matchs de la 33e journée du championnat qui étaient prévus aujourd'hui ne se joueront pas. Merci Gaëtan Plenet. Une vie simple, ça correspond à ce qu'il avait dit lors de sa toute première conférence de presse en tant que pape, c'était en 2013. Il expliquait pourquoi il avait choisi ce nom.
Francesco d'Assisi. Et pour moi, l'homme de la pauvreté, comme vorrei una chiesa povera, et per i poveri.
Saint François d'Assise, le symbole de la pauvreté. Comme j'aimerais une église pauvre et pour les pauvres, disait le pape François. Charles Mercier, qu'est-ce que le pape a mis en place durant son pontificat dans cette ligne ?
Bien, il a essayé de se débarrasser de certains apparats pour rendre l'église plus modeste. Il a aussi beaucoup, évidemment, mis l'accent sur les migrants, qui pour François était la figure des pauvres dans la mondialisation, ceux qui n'ont plus de pays, ceux qui sont obligés de quitter leur terre natale pour trouver de quoi vivre dignement. Et dès ses premiers déplacements à Lampedusa, il a essayé d'attirer l'attention du monde sur les enjeux et sur les personnes qui se cachaient derrière la question des migrations. Il a aussi été souvent en prison, notamment durant la Semaine Sainte, lors du Jeudi Saint, où il a été lavé les pieds de prisonnières et de prisonniers. Il a aussi tenu, lors de ses voyages, à rencontrer les exclus, les personnes engagées dans la lutte contre la pauvreté. Et donc effectivement, c'était un des fils rouges de son pontificat, rendre l'Église davantage pauvre, et mettre les pauvres au premier plan.
Est-ce que c'est quelque chose qui est accepté au sein de l'Église ?
Alors, cette question de la pauvreté, en général, elle est assez consensuelle au sein de l'Église. Ce qui a pu davantage être un polarisant, c'est la question des migrations. On l'a vu hier lors de la rencontre avec le vice-président américain Jed Vance. Le pape n'était pas aligné avec Vance, qui est lui aussi catholique, mais dans un courant beaucoup plus conservateur. Donc faire de la figure des migrants une figure christique, une figure qui représente le Christ souffrant, ça a été accepté en tant que tel, mais les implications pratiques que cela entraînait ont été beaucoup moins consensuelles au sein du catholicisme, et ça fait partie des clivages qui se sont exprimés sous son pontificat.
En tout cas, c'est quelque chose qui est salué aujourd'hui, puisque les autorités espagnoles saluent là ce matin le pape François et expriment que ce pontificat a été marqué par un élan rénovateur et réformiste pour l'Église catholique. En 12 ans de pontificat, François a dû faire face aussi à de très nombreuses révélations sur la pédocriminalité dans l'Église, notamment après un rapport sur la question dans l'Église de France. Et il avait tenu à s'exprimer publiquement sur cette question. On l'écoute.
Je désire exprimer aux victimes ma tristesse, ma douleur pour le traumatisme qu'elles ont subi et ma honte. Notre honte pour la trop longue incapacité de l'Église à les mettre au centre de ses préoccupations, et je les assure de ma prière.
C'est un sujet majeur pour l'Église catholique. Quel écho avaient trouvé ces mots du pape François ?
Alors, c'est vrai que le pape François a essayé de s'attaquer à ce problème, dont il faisait une lecture qui n'était pas forcément celle de l'ensemble des catholiques, qui pouvaient attribuer le problème des abus au relâchement de la morale sexuelle liée aux années 60. Pour François, il a très vite relié ça à son combat contre le cléricalisme, c'est-à-dire l'idée que les figures de prêtres étaient mises sur un piédestal et que ça favorisait les abus en toutes sortes, non seulement les abus sexuels mais aussi les abus spirituels, et qu'il fallait casser ce cléricalisme, ce qui a été un des fils rouges de son pontificat. Alors, François, sur cette question des abus, on lui a parfois reproché de pas aller assez loin, d'avoir lui-même des contradictions.
Alors, il avait notamment choqué en défendant un évêque au Chili il y a quelques années. C'était très mal passé à l'époque. Il avait un peu, réorienté sa politique après cela.
Oui, tout à fait. Il n'a pas lui-même toujours accordé crédit à la parole des victimes. Et on pourrait dire qu'il a cheminé personnellement en accordant à son tour parole et foi aux victimes. Et de ce point de vue-là, les extraits qu'on a entendus, il s'implique personnellement aussi dans le fait que la parole des victimes n'a pas été assez reconnue, et ce moment de l'affaire Chignel marque sans doute un retournement personnel dans la manière dont il appréhende la question.
Avec aujourd'hui, donc, selon vous, une prise de conscience réelle de l'ampleur de cette situation, parce que certains avaient reproché de trop petits pas de la part de l'Église sur cette question de la pédocriminalité?
Alors, ça dépend des pays, hein. C'est une compétence, il y a une impulsion qui est donnée par Rome, mais après, les épiscopats nationaux mettent en place des politiques, des enquêtes qui diffèrent, et il faut jamais oublier que l'Église catholique est une organisation globale, mais qui a dans la réalité une très grande marge de manœuvre qui est laissée aux épiscopats nationaux, et plus encore à chaque évêque dans les diocèses. Donc on pourrait dire que en France, le travail qui a été fait par les évêques et à travers la commission indépendante qu'ils avaient mis en place et marque une véritable prise de conscience et un véritable tournant. C'est sans doute moins le cas en Italie où la question des abus est encore pour partie éludée. Et il reste évidemment aussi tous les pays du Sud global où cette question a été sans doute beaucoup moins traitée qu'elle ne l'a été en Amérique du Nord ou en Europe.
Avec une question qui est quand même celle du rapport à la justice.
Oui, tout à fait. Alors, de ce point de vue, le pontificat marque aussi une évolution dans le sens où l'Église catholique reconnaît qu'elle ne peut plus être au-dessus des lois et qu'elle doit s'en remettre à la justice civile, qu'elle doit demander l'aide de la justice civile, qu'elle doit déclarer à la justice civile les abus et non pas traiter ces affaires en interne. Et là encore, donc les signaux du pontificat ont été clairs, même si dans la réalité, il y a eu des décisions individuelles prises par François, notamment avec ce prêtre jésuite et artiste, le père Rupnik, pour lesquels en fait ces choix ou ces décisions ont pu paraître à contre-courant des impulsions qu'il donnait. Mais voilà, sur le fond du message, il y a quand même eu un déplacement très fort qui a été opéré sous son pontificat.
Est-ce qu'on a une idée de la personne qui pourrait lui succéder ou du type de personnalité? Est-ce qu'on sait si l'Église catholique est prête à poursuivre dans cette voie, dans ces changements qui ont été initiés par le pape François?
Alors, les historiens ne sont pas forcément très bons pour les pronostics. Et puis, on dit souvent que le conclave est une élection extrêmement imprévisible. Vous savez que François a été élu par un collège cardinaliste qui avait été nommé par Benoît XVI et par Jean-Paul II, donc des cardinaux qui a priori avaient une ligne théologique qui n'était pas forcément la sienne, et c'est lui vers lequel les suffrages ont convergé. Donc là, on a un collège cardinaliste qui a été très grandement nommé par François, donc qui est majoritairement composé de cardinaux qui sont sur sa ligne pastorale et réformiste, mais il peut y avoir une surprise. Je pense que on peut supposer que le prochain pontificat sera dans la lignée de celui de François, et que les portes que François a essayé d'ouvrir, les processus qu'il a essayé d'initier, seront sans doute déployés par son successeur, mais rien n'est écrit.
Et est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le protocole à partir de maintenant et comment ça se passe au sein de l'Église jusqu'au conclave qu'on évoquait à l'instant?
Alors, il y aura les obsèques du pape d'ici 5 ou 6 jours, qui seront un moment à la fois religieux et diplomatique important, puisqu'il y aura sans doute une grande quantité de chefs d'État qui assisteront à ces obsèques. Et puis, d'ici une quinzaine de jours, eh bien, les cardinaux se retrouveront en conclave et échangeront sur les enjeux qui se posent pour l'Église catholique avant eh bien, de se mettre d'accord, de voter pour un pape qui, pour être élu, doit recueillir les 2/3 des suffrages. Donc, c'est une personnalité qui doit être relativement consensuelle pour attirer les 2/3 des votes. C'est ce qui évite en fait d'avoir une personnalité trop polarisante ou trop clivante. Il faut qu'il y ait une forme de consensus qui s'établisse pour qu'un nom sorte, pour que la fumée blanche sorte et permette l'annonce.